Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 49 de ITcast du 27 octobre 2017. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Jumelet, architecte cloud et sécurité chez Microsoft France. Et avec lui, nous allons évoquer la situation actuelle de la sécurité dans le cloud. Il est question de protection contre les DDoS, de PCI DSS, de zones de disponibilité. Il est question également d'Azure Confidential Computing, des data centers français et aussi de l'actualité récente avec quelques vulnérabilités et attaques qui ont fait parler d'elle récemment. Tout de suite, on retrouve Arnaud pour un épisode 100% sécurité. Eh bien, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui dans les locaux de Microsoft, accompagné de Arnaud Jumelet. Bonjour Arnaud.
Bonjour Pascal.
Arnaud, tu es architecte cloud et sécurité dans la division, dans la direction, pardon, technique et sécurité de Microsoft France.
Oui, c'est ça.
Eh bien, bienvenue Arnaud. On s'est déjà vu entre un an et deux ans, je ne saurais pas dire exactement, mais il y a un certain temps.
Oui, c'était il y a deux ans, à peu près. Hein.
Et on avait déjà parlé à l'époque de sécurité dans Azure.
Ouais, on avait dû parler aussi de Windows 10
et de Windows
de mémoire.
Eh bien, aujourd'hui, Arnaud, on va parler de sécurité dans le cloud avec des considérations. Ben, tu m'as proposé des sujets qui sont très vastes, très larges, et ça va être super intéressant de fouiller un petit peu ta vision de la sécurité dans Azure et dans le cloud en général. Et ce que je te propose pour commencer, c'est d'attaquer sur une question très très philosophique, entre guillemets, pour nos amis responsables de sécurité, c'est que est-ce que la pratique des sécurités, telle qu'on la pratique aujourd'hui dans les entreprises, est vraiment adaptée à ce dont on aurait besoin avec une architecture très orientée cloud ?
Bah écoute, moi ce que j'observe, c'est que généralement, en fait, il n'y a pas encore l'automatisme de... Enfin, on va dire les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est quoi ? Ça serait de dessiner en fait l'architecture que tu veux mettre dans le cloud, donc tout simplement de faire des diagrammes, de dessiner où sont tes composants, où sont ton stockage, où ta couche de traitement, etc., et de faire un modèle de menace, hein. Donc tu vois, d'avoir une approche un peu analyse de risque en te disant si je porte en fait cette architecture ou que je crée une nouvelle architecture dans le cloud par rapport aux fonctions qui sont disponibles par exemple dans Azure, hein, c'est quoi, qu'est-ce que je dois utiliser pour sécuriser mon architecture, et puis s'il y a des manques, qu'est-ce que je fais pour combler ces manques, tu vois. Ça, c'est une démarche un peu plus cadrée, analyse de risque, et ça, on l'a pas vraiment encore comme automatisme. Bien souvent, dans les réflexions, on est à chaque fois avec quelqu'un qui vient plus sur une question, sur un outil ou une approche technique. Ça va être par exemple, je sais pas, du chiffrement. Et donc il y aura des questions sur le chiffrement hyper, hyper pointu, hyper précise. Mais des fois, on oublie trop souvent d'avoir plus une approche où on regarde la vue d'ensemble. Et c'est quoi les données que je vais stocker finalement dans mon application, à partir de quelle plateforme je vais administrer mon application, etc. Est-ce que je fais du stockage? Est-ce que je vais produire des logs? Est-ce que mes logs ils vont être sécurisés? Est-ce que j'ai besoin de faire de la haute disponibilité? Est-ce que je fais de la reprise après incident s'il y a un problème sur un data center, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on préconise le plus souvent quand on est dans une démarche, on veut regarder la sécurité dans le cloud. C'est plus de commencer vraiment avec une démarche un peu plus haut niveau avant de s'attaquer aux mesures techniques.
Alors ça vient de quoi ça ? Ça vient du fait que chaque fois qu'il y a un nouveau projet cloud, on est obligé de repenser une architecture complète de A à Z ou...
Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Ça vient aussi parce que au début, sur les plateformes de cloud public, t'avais pas les mêmes éléments que tu pouvais retrouver dans ton infrastructure comme d'habitude. C'est-à-dire qu'avant, t'avais sans doute le réflexe de construire une DMZ, de filtrer tes flux réseau, de mettre des règles de pare-feu, de mettre des sondes, de faire tout un tas de choses qui sont jugées comme bonnes pratiques depuis pas mal d'années sur de l'infrastructure à demeure. Et quand tu vas dans le cloud, en tout cas il y a quelques années, tu ne retrouvais pas forcément, tu vois, tu n'avais pas d'équivalence. Donc ça suscite également des craintes et des interrogations quand tu veux monter une telle plateforme dans le cloud. Et puis, tu n'as pas forcément de correspondance parce que maintenant, bien souvent, tu as des services qui sont administrés pour toi. Administrés dans le sens PaaS. Enfin, les gens ne font pas de l'infogérance, mais c'est plutôt des services qui sont, on va dire, mis à jour en continu, etc. pour toi. Et donc, tu ne contrôles pas la totalité des éléments. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les gens, quelque part, sont un peu perdus parce que ça va vite. Hein. Tous les mois, tu as des nouveaux services qui sortent. Donc, ton éventail de solutions techniques aussi, elle évolue.
Si on veut prendre un exemple de ce qui serait pas mal à améliorer dans ce qu'on rencontre actuellement chez nos clients, tu prendrais quoi comme point, par exemple, qui sont le plus souvent sous-estimés dans les projets que tu vois en général ?
Des fois, dans les réflexions qu'il peut y avoir, c'est des gens qui viennent en disant « Tiens, le déni de service, vu qu'on parle de cloud, ça, c'est quelque chose, c'est un risque qui nous fait peur. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le déni de service distribué ?» Si quelqu'un s'amuse, ou un groupe de personnes mal intentionnées, ou un réseau de machines infectées est piloté par quelqu'un de malveillant et commence à inonder notre application de requêtes, qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment vous agissez pour régler cette problématique ? Donc tu vois, souvent le risque, c'est un risque de déni de service. Alors c'est intéressant comme question et on pourrait répondre par rapport à ce qu'on peut proposer dans Azure. Mais il y a aussi un autre risque de déni de service, c'est tout simplement l'administrateur. C'est que maintenant dans Azure, enfin même les architectures cloud, souvent tu as... quelque chose qui est accessible assez facilement, en fait. Toutes tes fonctions, tous tes logiciels sont accessibles depuis un seul endroit, tous tes services. Que ça soit via un portail ou via même une API. Tu sais, tu peux tout administrer maintenant en script. Tu peux créer des ressources, mais également les supprimer. Ce qui veut dire que en cas de mauvaise manipulation ou si quelqu'un met la main finalement sur tes credentials, sur tes secrets d'administration... ça veut dire qu'un script malveillant pourrait tout à fait supprimer la totalité de tes ressources qui sont hébergées dans le cloud. Donc il y a quand même une question à se poser de comment j'administre en fait ma plateforme. Est-ce que j'ai bien mis en place les bonnes pratiques d'administration ? Est-ce que je sépare mes rôles ?
Est-ce qu'on utilise à bon escient les techniques de RBAC ?
Ouais, exactement. Est-ce que je segmente bien par des rôles et je m'assure qu'une personne ne puisse pas tout faire ? Et qu'on puisse vraiment séparer les privilèges. Et puis après, il y a aussi la sécurité de ton poste de travail. Est-ce que je m'en sers aussi pour faire d'autres choses qu'administrer la plateforme ou est-ce que tout simplement, je suis vraiment sur une version récente au niveau de mon système d'exploitation ? Est-ce que j'ai bien les bonnes pratiques ? Est-ce que le poste, il est, sécurisé, durci, etc., etc. ? L'authentification, est-ce que je m'authentifie avec un mot de passe ou est-ce que je vais un peu plus loin et je fais de l'authentification forte ? Bref, le poste de travail et les pratiques d'administration, c'est également un point hyper critique et c'est un des points clés à ne pas négliger avant, je pense, de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si y a quelqu'un qui essaye de bloquer mon application avec du déni de service distribué.
D'accord, donc tu penses à la protection du poste de travail de l'administrateur de cloud ?
Ouais, et des postes, enfin en général des administrateurs, parce que j'imagine que souvent il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une personne qui va administrer la totalité de la plateforme, mais c'est un point hyper critique.
Donc en gros, quand on regarde les pratiques telles qu'on les pratique nous au quotidien pour faire de l'Azure, quoi, on a quoi ? On a une authentification dans Azure qui est en cache dans nos machines. Et qui nous permet d'accéder soit au portail, soit à la ligne de commande, etc., sans se réauthentifier à chaque fois.
Oui, exactement.
Un cache qui dure un certain nombre de semaines. Je n'ai pas en tête exactement combien de temps ça dure, mais...
T'as effectivement, après que l'authentification soit réussie, que ça soit pour un script ou quand tu vas sur le portail, t'as effectivement une notion de cookie. Voilà. T'as une preuve d'authentification qui permet de pas avoir à te réauthentifier à chaque fois que tu fais une action sur la plateforme.
Voilà.
Donc c'est un point à prendre en compte Et par rapport à ça, c'est essentiel de s'assurer qu'il n'y ait pas de logiciel malveillant qui puisse tourner sur ta machine. Parce que l'actualité récente, c'était tout ce qui était Petya, notre Petya, des crypto-lockers, hein, en fait, qui chiffrent toutes les données. Mais on peut peut-être imaginer que les menaces vont évoluer, hein, et qu'au lieu de chiffrer ton disque dur, ça soit tout simplement soit de chiffrer les ressources dans le cloud, ou tout simplement de les supprimer, hein, de façon très automatisée. Hein. En faisant quoi ? En te volant soit tes secrets d'administration, soit en essayant de voler tes cookies d'authentification. Par rapport à ça, les cookies d'authentification, il y a une notion qui est assez intéressante après à regarder. Hein. Mais quand tu prends un poste de travail et qui est joint, tu sais, à un domaine Azure AD, l'Azure AD Join, dans Windows 10, les versions assez récentes, on a une notion où on peut lier ton cookie à ta machine, ce qui fait que le cookie qui est en mémoire ne peut être réutilisé, ne peut pas être réutilisé ailleurs que sur ta machine. Donc en fait, on va sceller le cookie à ta machine via la puce TPM.
D'accord.
Donc si tu veux, dans Windows 10, il y a des mesures assez intéressantes par rapport à ça, et Azure AD Join. Qui permettent de renforcer la sécurité aussi des postes d'administration et qui permet de monter un peu en gamme sur la sécurité. Hein. Donc c'est des choses aussi à regarder, je pense, sur les postes d'administration.
C'est comme par exemple les services principaux, services principaux, ouais.
Dans Azure AD. Hein.
Dans Azure AD, effectivement, qu'on crée typiquement quand on va utiliser des services dans Azure qui vont devoir s'authentifier, qui vont devoir faire des actions directement contre Azure, par exemple, je sais pas moi, un cluster de containers qui a besoin de gérer automatiquement les load balancers, il a besoin de s'authentifier dans la fabrique Azure pour faire ces opérations là donc il a un service principal.
Et il y a même un service qui s'appelle Identity Manager, Azure AD Identity Manager, qui permet de... C'est pas mal, ça. Ça permet d'injecter, en fait, le secret d'authentification de ton application lorsque tu démarres le service ou que tu démarres la machine virtuelle. Parce que l'autre problème, hein, dans les bonnes pratiques, c'est que bien souvent, quand tu as besoin que ton code accède à un autre service ou à une autre application, il va devoir s'authentifier auprès d'Azure AD.
Ouais.
Avant, ce qu'on en faisait, tu mettais dans le code de ton application l'identité de ton application avec son service principal, son application ID, hein, puis tu mettais également son secret. Hein. Et oui. Le problème, c'est quand en termes de DevOps, etc., ça fait pas mal de monde en fait qui manipule le code source et qui a sous les yeux finalement le secret. Hein. Avec ce nouveau service Identity Manager, ça te permet en fait de plus avoir à manipuler ce type de secret. Hein. Et ça, quand tu t'appuies sur ça, en fait, ça va injecter dans le runtime en fait le secret.
D'accord.
Donc, tu le mets plus dans le code source, ça traîne plus dans les codes sources.
D'accord.
Ça va le chercher directement là où il faut.
Parce que le truc qu'on voit, et il arrive qu'on le voit vraiment, c'est ce genre de secret-là qui se retrouve sur GitHub en fait.
Ouais, c'est. Il y a pas mal de choses dans les blogs où tu te rendais compte que...
Il faut faire des petites manips avec les gitignore et tout ça pour faire en sorte que ça se retrouve pas dans GitHub, mais ça arrive et puis il y a des gens qui vont...
Il y a des gens qui font ça, qui cherchent les clés RSA, qui cherchent les logins mots de passe, hein. Et puis après qui vont se connecter aux subscriptions Amazon ou Azure pour aller prendre la main.
Voilà. Donc il y a effectivement des choses. Bon, c'est très pratique, les services principaux là, et puis le fait que ce soit juste un nom et un mot de passe et qu'il ait juste les droits qu'il faut sur des ressources groupes, des ressources, etc. dans Azure. Mais effectivement, il faut gérer ces choses-là. C'est simple, c'est un mot de passe, mais il faut le gérer, quoi. Donc effectivement, ça fait des nouvelles choses à gérer qu'on n'avait pas l'habitude de gérer il y a quelques années et puis qui, comme tu dis, qui doivent rentrer dans les bonnes pratiques actuelles, quoi. Et donc, dans les pistes de solutions, il y a la sécurisation du poste de l'administrateur lui-même. Avec ça peut être par exemple de l'authentification double facteur.
Ouais, de l'authentification double facteur.
Tu as parlé de Azure AD Join, ça peut participer à.
Ouais, Azure AD Join, permet de faire ce qu'on appelle du token binding. Ça veut dire tout simplement que tu vas lier le cookie à ta machine. Donc c'est hyper important, ça veut dire que du coup, les actions malveillantes, s'il y en a, elles seront faites que depuis ton poste. entre guillemets, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de voler ton cookie, il ne pourra pas le réutiliser ailleurs. Hein. Mm. Donc ça limite un peu le scope de ce qui est possible de faire. Après, il faut s'assurer d'avoir fait du airbag, il faut s'assurer d'avoir des backups, etc. Pour, bref, prendre en compte ce risque de « et qu'est-ce qui se passe si un administrateur devient fou et, ou quelqu'un de malveillant devient fou et supprime tout ce que je possède ?» Enfin, qu'est-ce qui se passe hein? Est-ce que j'ai bien anticipé? Est-ce que bah, finalement, il faut quand même plusieurs personnes pour faire ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des backups, etc. etc. Je pense que c'est un des sujets, je pense, qui va redevenir d'actualité dans les prochains mois, en fait. Et c'est un peu toujours comme ça, hein, par rapport aux pratiques d'administration. Hein. L'Active Directory est à la mode depuis, je pense, là, quelques mois, quelques années, je dirais depuis 2 ans. Aujourd'hui, il y a malheureusement les mauvaises pratiques d'administration de l'Active Directory sont en cause. Hein, et c'est aussi pour ça que bon nombre d'entreprises sont attaquées aussi durement, en fait. Hein. C'est que le cœur du système d'information, l'Active Directory, c'est pas tant qu'il n'est pas sécurisé. Hein. Le produit, il est robuste et il peut y avoir de temps en temps des failles. Il y a des patchs, mais c'est pas ça le problème qui est mis en cause. Hein. C'est plus la configuration et surtout comment on administre cette brique. Je pense que le cloud, ça va être... forcément, il n'y a pas de raison qu'on ne reproduise pas les mauvaises pratiques. Ça risque d'être la même chose. Hein. Donc, ça serait peut-être intéressant qu'on en prenne de la graine dès maintenant et qu'on... dès maintenant qu'on change comment on utilise les services cloud.
Et qu'on mette la sécurité au cœur des pratiques
des pratiques d'administration. Ouais, ouais.
Est-ce que dans tout ce cadre qui est un petit peu complexe, on a des architectures de référence ou des documents de référence qui pourraient nous aider, qui pourraient aider nos clients en particulier à monter des choses un petit peu raisonnables en termes de sécurité?
Bah, à ce propos, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. C'est début septembre, il y a Microsoft qui a publié sur l'URL qui sera cité, je pense, dans les ressources avec le podcast.
Okay.
C'est aka.ms/PCI Blueprint. PCI Blueprint. Et c'est une architecture de référence qui est super intéressante à regarder parce que l'idée, c'est quoi? C'est une application type, d'e-commerce qui manipule des données bancaires. Donc concrètement, en fait, tu peux faire avec ça des achats et puis tu peux sauvegarder les cartes bleues de tes clients. Donc c'est sensible, tu as le numéro de carte bleue, tu as la date d'expiration et puis le numéro de validation. Hein. Et quand tu veux faire ça, que ça soit on-prem ou dans le cloud, il faut que tu sois conforme à une norme qui s'appelle PCI DSS. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est une architecture type qui est montée, qui vise la conformité à PCI DSS. Il y a un auditeur qui a pris en fait l'architecture qu'on proposait et qui dit, oui, en regardant l'architecture comme elle est proposée, avec tous les éléments qui sont mis en place, ça répond bien aux 200 et quelques exigences de PCI 3.2. Donc là où c'est pas mal, c'est que du coup, on peut s'inspirer pour dire, dedans, il y a quand même des bonnes pratiques de sécurité qui sont mises en œuvre. Alors, l'architecture de référence, elle utilise quand même beaucoup de composants. Tu as vraiment la partie identité avec Azure Active Directory et puis la partie airbag, tu sais, avec le fait de séparer les rôles d'administration.
Oui.
Et les rôles en général. Tu as également des bonnes pratiques sur la gestion des secrets d'administration, d'authentification en utilisant Azure Key Vault. Tu as la mise en place d'une DMZ. Pourquoi? Parce que PCI réclame de mettre en place ces concepts de DMZ.
D'accord.
Et donc, dans Azure, finalement, voilà, on explique comment remettre en place cette bonne vieille DMZ en mettant en fait devant des pare-feux applicatifs, des WAF, oui. Les Web Application Firewall. Donc, il y a toutes ces bonnes pratiques où on va isoler les composants les uns avec les autres en contrôlant les flux réseau, en mettant des règles, en enregistrant tout ce qui se passe, en mettant en place des alertes si jamais il y a des choses qui sont déviantes. On peut même contrôler maintenant les fichiers, l'intégrité des fichiers. Ça aussi, c'est une bonne pratique. Enfin, c'est des bonnes pratiques de pouvoir regarder si les fichiers sont toujours les mêmes dans l'IAS, par exemple, sur des machines virtuelles. Est-ce qu'il n'y a pas de différence ? Donc tout ça, on peut faire avec Azure. Donc c'est assez complet, en fait. Hein. C'est que ça va manipuler quand même plus d'une dizaine de services Azure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les services Azure manipulés, c'est essentiellement du PaaS. Donc c'est vraiment des nouveaux services qui sont mis en avant.
D'accord, je vois qu'il y a des web apps, il y a du app service.
Tu as de la protection anti-DDoS, tu as
de l'Azure SQL Database.
Ouais, exactement, avec du chiffrement en fait sur les champs les plus sensibles. C'est-à-dire que les numéros de carte de crédit, okay. En fait, ils sont chiffrés et protégés même contre un administrateur de la base de données. Il ne peut pas les regarder. Ou s'il fait un export de la base de données, hein, il n'aura que de la donnée chiffrée.
Ok.
Allez, donc y a vraiment
ce qui se conçoit pour des données bancaires.
Et il y a également la mise en place d'un environnement bastion, une sorte de poste bastion. L'idée c'est quoi ? C'est un serveur de rebond en fait, de dire bah peut-être que les postes d'administration sont peut-être pas tous sécurisés. Donc, on va faire en sorte que le point d'entrée se fasse depuis une machine virtuelle qui est dans Azure. Mm. Et ce poste est restreint sur ce que tu peux faire. Hein. Donc, tu as des. T'as que des logiciels très limités qui peuvent être exécutés au sein de cet environnement. Tu as du BitLocker, hein. Les données sont chiffrées. T'as un anti-malware. Enfin, tu as tout un tas de bonnes pratiques qui sont déployées au sein de cet environnement de l'administration. Hein.
Et t'as dit NSG, je vois.
Exactement.
Et alors, ce qui m'interpelle également, c'est que pour tout ça, ben, ça pourrait avoir l'air complexe comme ça de prime abord, mais il y a des templates de déploiement ARM et des scripts de déploiement automatisés,
ouais,
qui sont fournis.
Exactement.
Et donc, ils vont simplifier si on veut s'inspirer plus ou moins.
Si tu veux commencer à jouer avec la solution, ouais, type, tu peux la déployer en quelques clics. Hein. C'est complètement automatisé, hein, et ça te permet après d'aller regarder plus en détail comment les choses sont configurées. Mais c'est une vraie source d'inspiration parce que ça vient également avec un modèle de menace. Un modèle de menace, c'est quoi ? Bah, c'est fourni, c'est un schéma qui reprend en fait les différents composants, c'est-à-dire bah, mes données, elles sont stockées où ? Dans quoi ? Comment j'accède à mes données ? Est-ce que les flux sont sécurisés ? Etc., etc. Et donc, tout simplement de lister les menaces qui sont associées à chaque composant. Et puis en face, on met les contre-mesures. Bah, voilà. Pourquoi mon architecture elle est sécurisée ? Bah, parce que les données elles sont chiffrées, parce que les communications elles sont authentifiées, parce que les composants sont isolés les uns des autres, etc. etc. Donc, ça aussi, c'est une bonne source d'inspiration pour mettre en place les bonnes pratiques de sécurité, hein, pour avoir une architecture assez robuste.
Je vois qu'il y a des schémas d'isolation d'isolation réseau. Donc il y a toutes les bonnes pratiques qui sont représentées. Et ça s'appelle.
Comment que ça s'appelle ? Ça s'appelle, le PCI Blueprint.
Ouais.
Donc si tu tapes Azure PCI Blueprint.
For PCI DSS Compliant Environment.
Ouais, tu devrais tomber dessus.
aka.ms/PCI-Blueprint. On mettra le pointeur, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut également dire en termes de ce qui va faire la différence en termes de sécurité dans une architecture cloud qui serait spécifique vraiment aux architectures cloud par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire dans les environnements on-premises, quoi ?
Bah, t'as peut-être gestion des clés de chiffrement. Ça peut être intéressant. Gestion des secrets d'authentification, des clés de chiffrement, de tes certificats TLS. Hein. Toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui...
Avec Azure Key Vault.
C'est jamais centralisé. Ouais, avec Azure Key Vault, tu vas pouvoir assez facilement centraliser la gestion de ces éléments-là. Ça, c'est important. Et puis, tu peux, sur les versions un peu plus coûteuses, version Azure Key Vault Premium... t'assurer que ça soit adossé à des boîtiers cryptographiques, des boîtiers HSM. Mm. Ça va te permettre également de mettre en place du renouvellement automatique de certificats, chose que je ne savais pas, mais qui est insuffisamment connue peut-être, c'est qu'Azure Key Vault te permet de gérer tes certificats SSL TLS auprès de fournisseurs publics, de type Digicert ou autre. Donc ça te permet vraiment d'accord. d'avoir quelque chose d'assez intégré. Hein.
Avec un renouvellement automatique.
Avec un renouvellement automatique. Oui, tout à fait. Hein.
Il y a des accords avec certains fournisseurs, c'est ça ?
Il y en a, je crois, 3 ou 4 aujourd'hui hein, qui sont dans la liste.
Ah, mais je ne savais pas non plus. Tiens.
Donc ça, c'est des points sympas à mettre en œuvre.
Donc en gros, pour résumer, Azure Key Vault, on s'authentifie avec un compte Azure AD.
Oui, l'authentification, elle est faite avec Azure AD.
Voilà, la protection se fait à ce niveau-là.
C'est ça.
Par exemple, je ne sais pas, mon application va utiliser un service principal, justement, pour s'authentifier sur Azure Key Vault, pour ensuite récupérer des secrets, donc certificat web, TLS, ou clé SSH.
Exactement.
Pour accéder,
Et ça te permet après, vu que c'est centralisé, d'auditer ce qui se passe avec les secrets et qui finalement les a réclamés. Ça te permet également de les changer, de les modifier assez simplement, étant donné que c'est Azure Key Vault en fait qui centralise tes secrets. Tu peux, si tu le souhaites, faire une rotation des clés de chiffrement. C'est une bonne pratique finalement de dire je change régulièrement mes mots de passe, mes secrets. Tu peux avoir t'as un versionning en fait dans Azure Key Vault, ce qui fait que tes applications elles vont à chaque fois chercher le dernier secret qui valide. Et si jamais t'as un souci aussi, c'est de pouvoir reprendre la main. Si jamais tu détectes que y a un élément qui aurait été compromis et que le secret il a été volé, tu vas pouvoir le révoquer et passer sur un autre secret. Chose qui n'est pas évidente si tu ne fais pas ça.
C'est utilisé également dans le cadre du chiffrement de disques de machines virtuelles ?
Oui, c'est utilisé pour les machines virtuelles. Que ça soit des Mcrypt ou BitLocker, tu peux t'interfacer avec Azure Key Vault pour gérer tes clés de chiffrement. C'est également utilisé en preview sur le service de stockage. Dans Azure, tu peux stocker des fichiers, tu peux stocker plein de choses, des tables, des messages, etc. Et donc dans Azure Storage, tu vas pouvoir manipuler tes clés de chiffrement. Azure Storage, pour information, d'ici là, un mois et demi, enfin d'ici la fin de l'année, ça sera chiffré par défaut. Tout le stockage dans Azure sera chiffré par défaut. Donc c'est vraiment en train d'être complètement généralisé. Et une fois que ça sera fait, en preview, là, tu vas pouvoir maintenant, en plus, avoir le contrôle sur tes clés de chiffrement. Donc le service fera le chiffrement, mais tu pourras également lui demander de prendre la clé de chiffrement de ton choix en t'interfaçant avec Azure Key Vault. Donc c'est pas forcément... c'est un plus vraiment pour la conformité interne. Si ta politique de sécurité exige que tu aies le contrôle sur les clés de chiffrement, tu vas pouvoir le faire.
Ensuite, il y avait une autre fonctionnalité qui a été annoncée il y a peu sur Azure, c'est les zones de disponibilité, les Availability Zones, AZ.
Ouais, ça a été très attendu, les zones de disponibilité. Concrètement, ça va te permettre de, au sein d'une région Azure, d'avoir un mode haute disponibilité pour ton application. Tu vas pouvoir répartir tes ressources au sein de plusieurs data centers. Et les régions qui sont annoncées comme compatibles avec les zones de disponibilité, c'est déjà l'Europe. Il y a déjà, de mémoire, c'est Amsterdam.
Western Europe, donc, Europe de l'Ouest.
Oui, qui est compatible.
Donc, en gros, ce sont les régions qui ont au moins 3 data centers dans la région. Quoi.
C'est ça. Pour fonctionner, en fait, tu as 3 data centers. Et ce qu'on a annoncé aussi, c'est que l'Irlande serait également concernée d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. Et également la France, avec la région centrale Paris.
La région France centrale.
Oui. France
centrale Paris, c'est autre chose.
France centrale, oui, exactement.
Ok. Et pas la région sud.
France sud. Avec Marseille, c'est ça ? Non, Marseille, non, ne sera pas concerné.
Ouais.
Les zones de disponibilité pour la France, ça sera la région France centrale, à Paris.
Ok, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va te permettre de dire j'ai de la haute disponibilité sur une des régions en France. Et puis, si jamais il y avait un problème très important sur les 3 data centers, un problème très important, c'est une tornade, c'est un problème électrique qui toucherait Et encore, hein, tout en même temps, c'est peu probable, mais ça va être, je ne sais pas, une inondation majeure de la région parisienne. Hein. Bref, une grosse catastrophe, pas un tremblement de terre. Hein. Pas Godzilla, parce que là, c'est improbable. Hein. Là, tu ne vas pas me croire. Hein.
Une zombie apocalypse.
C'est ça. Bon, à ce moment-là, tu vas pouvoir basculer sur une autre région et ça sera Marseille. Hein.
Et voilà, parce qu'on a la géoréplication. On aura la géoréplication.
Exactement, oui. Donc, ouais. Tu quittes pas du tout le territoire. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as les deux. Hein. Tu fais donc, de la disponibilité et en même temps, bah, tu fais du disaster recovery au sein du pays. Hein.
Voilà, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ? On a des protections contre les DDoS, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais...
Oui, rapidement, on a fait des annonces pour expliciter que... On avait un nouveau service pour lutter contre les attaques de déni de service distribué qui permet de lutter jusqu'à un niveau plus avancé, hein, c'est-à-dire au niveau des couches applicatives. Et donc on va aller un peu plus loin en inspectant maintenant les messages qui sont envoyés sur ton application web. Et donc bah, tu as peut-être une soixantaine d'attaques, je crois, qui sont détectées. Hein. Ça, à minima, en fait, ça reprend les tests, tu sais, les attaques top 10 OWASP.
D'accord.
Et donc, ça va plus loin, mais ça couvre au minimum ça, en fait. Hein. Ça va beaucoup plus
loin. Applicatif, donc.
Exactement. Et tu vas pouvoir, après, définir des métriques. C'est une protection que tu vas appliquer sur ton virtual network. Donc, c'est, tu groupes tes ressources, en fait, dans un réseau virtuel. Et cette protection s'applique sur le réseau virtuel. Ça va apprendre c'est quoi finalement l'usage normal de ton application. Hein. C'est quoi en fait en général quand tout se passe bien, le nombre de requêtes par seconde, la taille des paquets, etc. Et tu vas pouvoir définir les seuils à partir duquel la protection va se mettre en marche. Donc si tu veux, il y a de l'apprentissage automatique de c'est quoi le comportement normal. Et tu vas avoir la main pour dire à partir de quand il faut enclencher la protection. La protection, ça va être... de réguler le nombre de paquets qui sont acheminés à ton application, hein, de les rejeter ou de faire, tu sais, une technique de mise en attente, hein, le slot line, de faire en sorte que tu répondes un petit peu moins vite pour absorber la charge. Donc c'est des protections qui sont très efficaces, hein, c'est aussi l'héritage de ce qu'on a pu faire et apprendre sur nos services comme Office 365 ou les autres services comme Xbox Live. Qu'on met maintenant à disposition auprès de nos clients, ils vont pouvoir maintenant les paramétrer en fait ces services.
Excellent. Il y a une autre fonctionnalité qui a été annoncée récemment, c'est le Azure Confidential Computing. Et là, j'avoue que j'ai été bluffé en lisant la littérature à ce sujet. Tu peux nous dire en deux mots de quoi il s'agit ?
C'est très prometteur. Il y a eu une démonstration qui a été faite en septembre lors de l'Ignite. Il y a Marc Rusinovitch qui en a fait la démonstration. Et
qui a écrit un long article.
Sur le sujet. Hein. L'idée, c'est de se dire en fait comment on fait pour adresser les clients qui ont des données très très sensibles. Et qui hésite encore à mettre ce type d'application dans le cloud. Parce que quand tu fais ton analyse de risque, tu vas regarder un peu le niveau de confiance que tu as sur ton fournisseur cloud. Et bon, en général, les clients, en tout cas sur Azure, ils comprennent bien que Microsoft, on a un certain nombre de certifications. Hein. On est leader sur les sujets. Hein. Les contrôles, ils sont là, ils sont en place, ils comprennent bien qu'il y a un investissement colossal qui est fait sur la sécurité, hein. Je crois qu'il y a plus $1 milliard par an depuis 3 ans, je crois, maintenant, sur le sujet de la sécurité par Microsoft. Bref, le message de trust et fournisseur de cloud de confiance, les gens l'ont bien en tête, hein. Mais ils ont toujours en arrière-tête de se dire mais si il y a un problème, hein. C'est-à-dire que j'ai bien compris que vous avez mis toutes les mesures en place, vous êtes à état de l'art, hein, sur le sujet. Mais si jamais il y a un défaut d'isolation sur vos architectures mutualisées, hein, si jamais il y a un malware qui arrive à percer les défenses, qu'est-ce qui se passe sur mes données les plus sensibles qui sont qui sont le cœur de mon business, en fait? Si je perds ça, je mets la clé sous la porte, qu'est-ce qui se passe, hein? Et donc là, tu vois, c'est toujours l'hésitation avant de passer le pas, hein. Et donc l'idée d'Azure Confidential Computing, c'est finalement de mettre en dehors de l'équation Microsoft et de dire, bah, en fait, tous les traitements et toutes vos données vont être faits au sein d'une enclave matérielle et une enclave sécurisée. Et donc on se base sur, du matériel, sur des processeurs, et pour l'instant on a déployé des processeurs Intel avec extension SGX qui implémentent en fait cette notion d'enclave sécurisée. Une enclave sécurisée, c'est quoi ? C'est comme une boîte noire, et au sein de la boîte noire, tu vas pouvoir opérer des calculs. Tu vas envoyer au cloud en fait des données et du code chiffrés, donc entièrement chiffrés. Ça va arriver en fait au sein de l'enclave, et il n'y a que au niveau du processeur que le traitement va pouvoir être effectué. Ça veut dire que s'il y a un code qui s'exécute sur la machine, s'il y a un débugger, s'il y a quelqu'un qui a un accès physique à la machine, au serveur, il va pouvoir rien faire. S'il fait un dump de la mémoire elle est chiffrée. Tout est entièrement chiffré. Et il n'y a que au sein de l'enclave matérielle sécurisée que le traitement peut s'opérer. Donc c'est assez, c'est un modèle qui est hyper hyper prometteur. Ça permet de s'affranchir d'un bon nombre de menaces. En pratique, comment ça va se passer, c'est qu'avant d'envoyer tes données les plus sensibles et ton code, tu vas pouvoir demander à l'enclave sécurisée de te prouver que elle s'exécute dans un mode sain et normal. Tu vas pouvoir demander une preuve, une attestation. Que c'est bien un processeur certifié SGX. Tu vas pouvoir demander comment la machine a démarré, quelle est la pile logicielle qui est chargée en mémoire, bref, d'avoir pas mal de critères. Et c'est qu'à partir du moment où tu es sûr que tu es dans un mode jugé de confiance, à ce moment-là, en fait, tu vas pouvoir envoyer de manière sécurisée ton code et tes données au sein de l'enclave, et c'est l'enclave qui va réaliser ses calculs.
D'accord. Est-ce qu'on a déjà des applications pratiques de la chose ?
Alors, il y a le plus avancé de notre côté, c'est pour l'instant, c'est SQL Server et Azure SQL, avec une notion qui s'appelle Always Encrypted. Ça sera une évolution d'Always Encrypted. Et c'est très prometteur. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir utiliser ces extensions, ces enclaves sécurisées pour opérer du traitement sur ta base de données. Donc ça, c'est un premier pas. Il y a également tout ce qui est blockchain. Tu sais, on a annoncé un framework qui s'appelle Coco Framework, et le code de la blockchain avec les smart contracts vont pouvoir également être exécutés au sein d'enclaves matérielles sécurisées. Donc ça, c'est les premiers services qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis la troisième chose, ça va être de pouvoir écrire directement des applications. Donc on va fournir bientôt un SDK qui va permettre de développer toi-même tes applications qui vont utiliser cette enclave sécurisée. C'est quelque chose qui va arriver là dans les prochains mois en preview.
Donc ça s'appelle Azure Confidential Computing et c'est très bien décrit dans un article de Marc Russinovich. En dehors de tout ce qu'on vient d'évoquer comme piste de solution pour améliorer la sécurité de nos applications dans le cloud, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté d'ici la fin de l'année du côté d'Azure ?
L'actualité que tout le monde attend, je crois que c'est l'ouverture des data centers en France.
Bah oui.
Donc ça, c'est confirmé. Hein. D'ici fin de l'année, il y aura l'ouverture des deux régions Azure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça va permettre d'imaginer de nouveaux scénarios. Hein.
Et il faut rappeler que ça ne concerne pas qu'Azure.
Non, tu as raison. Hein. Ça va concerner également Office 365 et Dynamics 365. Ça arrivera prochainement aussi.
Voilà. Donc voilà, c'est la principale nouveauté qu'on attend, nous aussi, avec impatience, avant la fin de l'année. À part ça, dans l'actualité de la sécurité, il y a eu un petit peu d'actualité. On peut dire juste deux mots.
Deux mots, ouais.
Arnaud, de ce qui s'est passé récemment dans le petit monde de la sécurité général.
Il y avait un bad rabbit, hein, le vilain lapin.
Le vilain lapin, il date de cette semaine, là, il est tout neuf, non ?
Il date de quelques jours. J'avais un collègue qui était à Kiev et qui.
En Ukraine, donc.
Oui, et qui a envoyé un petit message pour dire oulala, autour de moi, à l'aéroport, etc., il y a des messages. Un peu bizarre qui s'affiche, un fond noir avec des écritures rouges qui demande une rançon. Et ça me fait penser à notre Petya. Ça ressemble étrangement à, tu sais, des attaques
Un ransomware.
Exactement, un CryptoLocker.
J'ai déjà vu ça, mais malheureusement. Bon. C'est...
Après, quand tu regardes les détails, pour l'instant, le vecteur d'infection, il n'est pas encore bien clair. Les premiers éléments, ça serait des gens qui auraient accepté d'installer un logiciel qui se faisait passer pour une mise à jour Flash.
Ah.
Et ça semble être des régies publicitaires qui se sont fait infecter. Donc tu vas sur un site légitime qui affiche de la pub, et puis par ce biais, bah, tu as un message qui te demande d'installer une mise à jour. Hein.
On ne saurait que trop recommander l'usage de bloqueurs de publicité.
Bah, c'est sûr que là... Mais après, c'est plutôt de l'interaction humaine, quoi, le vecteur d'infection. Hein. C'est des gens qui ont exécuté du code sur leur machine. Mais c'est pas encore clair. Hein. Après, il y a peut-être eu d'autres vecteurs d'infection. Hein. Mais pour l'instant, c'est le seul qu'on ait connaissance. Et visiblement, bah, ça semble être assez contenu sur la Russie, l'Ukraine. D'ailleurs, c'est la Russie apparemment qui est plus touchée que l'Ukraine ce coup-ci. Hein.
D'accord.
Il y a plus de 65% des victimes qui sont en Russie.
Ok, ben on va leur souhaiter bon courage et puis on va suivre un petit peu comment ça évolue. En termes de crypto, il y a eu des choses assez intéressantes récemment. Il y a eu d'abord un petit problème sur nos appareils Wi-Fi.
Oui.
Avec WPA2 qui s'est retrouvé avec un petit bug dans le protocole WPA2. Hein. WPA2, en fait, c'est 802.11i. Donc, c'est le protocole de sécurité depuis des années maintenant qui a été connu commercialement sous le nom WPA2.
Oui, l'attaque s'appelle Crack.
L'attaque s'appelle Crack, ouais. Et où on en est, nous, Microsoft, dans nos produits vis-à-vis de cette vulnérabilité, là, cette attaque?
Bah, dans le papier, quand tu regardes le papier qui a été publié... T'as un petit comparatif des OS et puis des vulnérabilités. Hein. Tu t'aperçois que la partie Windows était touchée, mais sur un type d'algorithme particulier et assez récent, hein, qui manipule une notion de groupe de clés, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utilisé. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc ça, c'était faillible. Mais dans tous les cas, tu t'aperçois que l'attaque, elle était... beaucoup plus forte sur tout ce qui est Linux et Android. Après, je sais que Microsoft a sorti un patch, une mise à jour, hein, sur le mois d'octobre, pour corriger la faille. Et cette faille, oui, c'est sur le protocole, en fait. Hein. C'est vraiment sur le protocole. Hein.
Ok.
Donc ça va prendre du temps, je pense, pour mettre à jour tous les routeurs Wi-Fi et toutes les bornes Wi-Fi. Hein. Après, l'impact, comme tout le monde l'a rappelé, il est important, mais le fait que le chiffrement soit généralisé, hein, le fait que de plus en plus de sites web utilisent TLS...
Fasse du TLS par défaut.
Ça permet quand même de mitiger les effets de bord. Si jamais quelqu'un arrive finalement à se mettre en écoute sur ton réseau, hein, qu'il puisse ne pas récupérer tes authentifiants, tes secrets, etc. Mais là où c'était un petit peu plus gênant... c'est dans cette faille, c'est la capacité à injecter en fait du trafic, et donc dans les cas de figure les plus avancés, hein, ça te permettrait de sur quelqu'un qui surfe en web, en HTTP, hein, il pourrait tout simplement injecter du code malicieux ou malveillant dans l'interaction avec le poste.
Oui, et puis en plus, c'est indépendant du mode d'authentification qu'on a sur WPA2. Ça peut être du WPA2 personnel avec des mots de passe, quoi.
Oui, c'est ça.
De la clé partagée, quoi. Ou ça peut être du certificat en version entreprise, quoi.
Oui, tout à fait.
Ouais. Ok, donc pareil, patché.
Faut mettre à jour, oui.
Voilà, comme d'habitude. Et puis le dernier truc qui s'est passé plus récemment là, c'est
Roka.
Roka.
Ouais. Lui,
c'est pas Roka Madour, hein, c'est Roka.
Lui aussi, il est assez important, hein, Roka. C'est au départ, c'est l'alerte, elle vise les TPM qui sont produits par une société allemande qui s'appelle Infineon. Et y a beaucoup de matériel en fait qui utilise ce type de TPM. Donc t'as les principaux constructeurs d'ordinateurs qui sont touchés. Hein. T'as également les surfaces, hein. Donc tout ce qui est surface 4 et supérieur ont un TPM Infineon et sont faillibles par rapport à cette découverte. la découverte, elle est assez, enfin, elle est assez embêtante parce que dans le TPM, c'est la librairie qui génère en fait les clés RSA. C'est le générateur de clés publiques, clés privées qui est vulnérable. C'est comment en fait lorsque le module TPM va créer une clé. Tu sais, RSA, ça se base sur des nombres premiers. Donc il faut créer deux nombres premiers. Et donc quand on génère ces nombres premiers, en fait, le calculateur, pour aller créer ces nombres premiers, finalement, il utilise toujours, on va dire, qu'un sous-ensemble des nombres premiers possibles. Donc c'est pas aléatoire, en fait, dans tout ce qu'on peut faire. C'est qu'un sous-ensemble qui est utilisé. Et donc les chercheurs, en fait, ont trouvé que fort de cette connaissance, hein, si tu reprenais en fait un certificat de clé publique, tu pouvais retrouver après quelques calculs la clé privée. Et ils estiment que sur les TPM Infineon, ça nécessite à peu près un mois de calcul de mémoire pour casser une clé RSA de 1048 bits. Donc c'est pas, on va dire, n'importe qui va consacrer une telle somme d'argent, mais pour des organisations un peu plus avancées qui veulent faire des
Quelqu'un
actions de
motivé.
piratage motivées, hein, 40 000 dollars, c'est le budget. Si tu fais tourner les calculs sur une instance cloud, c'est pas hors de portée.
D'accord.
Donc, par rapport à ça, il va falloir attendre la mise à jour. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des mises à jour, hein. C'est que le TPM, il peut être mis à jour, hein, et donc le firmware va pouvoir être mis à jour. Infineon a commencé à déployer ses mises à jour, hein. Il va falloir que les constructeurs de matériel la prennent en compte. Surface, par exemple, va déployer très prochainement tu sais, tu as des updates sur les firmware Surface, hein, et donc on va l'inclure également dedans. Mais il y aura des étapes supplémentaires à suivre. Il faudra bien regarder on va dire, le mode opératoire, hein, sur les TPM. Hein. Parce que quand tu vas mettre à jour ton TPM, tous les secrets qui étaient stockés auparavant, il va falloir finalement les supprimer et les recréer. Donc il y a un impact à prendre en compte. Hein. Donc BitLocker, concrètement, il va falloir normalement désactiver la protection et puis la remettre en marche.
D'accord, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des manipulations à faire localement sur le poste,
Oui.
sur les postes.
Si jamais tu as créé des cartes à puce virtuelles, par exemple.
Donc du boulot pour nos amis admin.
Tout à fait. Ce ne sera pas qu'une simple mise à jour de firmware. Il y a certainement des étapes à prendre en compte.
Ok, du boulot pour les consultants aussi.
Oui. Et tous ceux qui sont dans les
C'est bien.
entreprises et qui n'avaient jamais trop regardé BitLocker, comment ça fonctionnait, et qui vont devoir se gratter un peu la tête entre les documentations Microsoft et puis même les fabricants de matériel, hein, qui peuvent avoir peut-être des recommandations contradictoires sur ça.
Ok, bah sur cette bonne nouvelle. Merci Arnaud. J'espère qu'on n'attendra pas 2 ans pour se revoir à l'occasion d'un petit podcast pour reparler sécurité. Et puis je dis à tout le monde, ben écoutez, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon week-end pour ceux qui sont juste en week-end. Et puis à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.